VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce lundi 5 octobre 2015. À la une ce soir.
Violence au Burundi, 8 personnes ont été tuées dans des affrontements entre forces de l'ordre et opposants au troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
La communauté internationale et la région appellent au gouvernement et les partis de l'opposition à s'asseoir ensemble pour discuter de l'issue de cette crise qui a déjà emporté des vies innocentes et des dizaines de milliers de réfugiés.
61 morts et au moins 300 blessés. Nouveau bilan des récentes violences en République centrafricaine.
Violence préélectorale en Guinée. Des dizaines de blessés ont été enregistrés dans le sud-est du pays où un couvre-feu a été instauré à Nzérékoré.
Au Burkina Faso, le coup d'État aura coûté cher aux finances publiques.
C'est nous qu'on veut évaluer à des centaines de milliards, puisque le gouvernement s'est basé sur les impôts. Les impôts, c'est le commerçant, c'est le privé qui paie. Donc, ça veut dire nous, on a subi plus que le gouvernement.
La Turquie demande la création d'une zone de sécurité le long de sa frontière avec la Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Burundi, 8 personnes ont été tuées, selon la police, dans des affrontements ce week-end à Bujumbura entre forces de l'ordre et résidents s'opposant au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. D'autres sources font état de plus de 15 morts. Les heurts se sont produits samedi dans plusieurs quartiers du nord de la capitale burundaise. Christophe Nkurunziza fait le point.
Les populations des quartiers Mutakura et Chibitoke ont passé un samedi cauchemardesque avec des explosions de grenades, des tirs à l'arme lourde. Ces tirs des policiers de la brigade anti-émeute avaient commencé dans la journée. Les habitants de ces zones contestent toujours le troisième mandat du président burundais réélu en juillet dernier. Le porte-parole de la police affirme que 8 criminels y ont perdu la vie, tandis que des sources des habitants parlent d'une quinzaine de morts parmi la population civile. Même si le porte-parole de la police parle de 4 policiers blessés, la population indique que des dizaines de policiers sont donnés plus de précisions et ont trouvé la mort, et la nuit était vraiment longue pour les habitants de la commune Nahangwa, au nord de la capitale. La police affirme que l'identité des perturbateurs de l'ordre est déjà connue. Parmi eux, il y aurait des Rwandais. De nombreux cadavres sont quotidiennement trouvés dans certains coins de la capitale. La communauté internationale et la région appellent au gouvernement et les partis de l'opposition à s'asseoir ensemble pour discuter de l'issue de cette crise qui a déjà emporté des vies innocentes et des dizaines de milliers de réfugiés. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La flambée de violence qui a embrasé Bangui fin septembre a fait 61 morts et 300 blessés, a annoncé ce lundi le gouvernement centrafricain, révisant à la hausse de précédents bilans faisant état d'une quarantaine de morts. Précision, Tatiana Mosso.
De sources hospitalières, le dernier bilan est de 61 morts et de plus de 300 blessés, selon un communiqué du ministre de la Sécurité publique et porte-parole du gouvernement. Les violences avaient éclaté le 26 septembre après l'assassinat d'un conducteur de moto-taxi de confession musulmane et s'étaient propagées dans plusieurs quartiers de la capitale avant que les forces internationales ne parviennent à rétablir le calme. La ville avait été paralysée pendant quelques jours par des barricades érigées par des manifestants réclamant notamment la démission de la présidente de transition, Catherine Samba Panza, ce qui a précipité le départ de cette dernière de New York où elle se trouvait alors pour l'Assemblée générale de l'ONU. Catherine Samba Panza avait qualifié ces violences de tentatives de prise de pouvoir par la force. Lundi, Bangui avait retrouvé son visage habituel. Les banques, les magasins, les boutiques ont rouvert. Les taxis, taxibus et taximotos ont également repris le service, mais certains axes ne sont pas totalement desservis. Les vols en partance et à destination de Bangui ont repris aussi. Les passagers peuvent accéder à l'aéroport sans pour autant être inquiétés, a affirmé à la radio d'État le ministre des Transports.
À Nzérékoré, en Guinée, un couvre-feu a été instauré aujourd'hui suite à une réunion de crise de la préfecture après les affrontements qui ont éclaté vendredi après-midi et se sont poursuivis samedi. Le bilan de ces violences est d'un mort et au moins 80 blessés. Les précisions de Dili Diko.
Suite aux affrontements qui ont eu lieu vendredi et samedi dans la ville de Nzérékoré, dans le sud-est de la Guinée, le préfet de Nzérékoré a instauré un couvre-feu de 18h à 6h du matin, jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise suite à la réunion de crise qui a regroupé toutes les ressources humaines disponibles dans la ville. Les autorités locales parlent de 29 blessés, alors que les observateurs et les ONG font état d'un mort et de 80 blessés. Le couvre-feu a pour objectif de prévenir les affrontements entre les partisans du président Alpha Condé et les sympathisants de candidats de l'opposition, dont le chef de file, Seloud Alain Diallo. Ces violences se sont produites alors que le chef de l'État, M. Condé, était en campagne électorale dans la région pour le scrutin présidentiel du 11 octobre. Selon le préfet, Bob Camara, la situation dans la ville est revenue au calme, mais les tensions persistent.
Boko Haram a de nouveau frappé au Niger. 3 kamikazes se sont fait exploser hier soir à Bosso, dans le sud-est du pays, à la frontière nigériane. Un 4e a été abattu par les forces de l'ordre, d'après l'AFP. Les autorités ne déplorent aucune victime, mais les assaillants, qui seraient venus à pied du Nigeria, sont morts. Bosso, situé près du lac Tchad, a été déserté par un grand nombre de ses habitants depuis une attaque des islamistes le 6 février, la première sur le sol nigérien. Les éléments de Boko Haram ne sont toujours pas loin. Ils sont juste de l'autre côté de la rivière Komadougou, Yobe, qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria.
Le Nigeria a confirmé aujourd'hui l'arrestation à Londres de l'ancienne ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke, libérée sous caution le jour même dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent. Madueke n'est pas la seule à avoir été interceptée. 4 autres personnes sont impliquées dans cette affaire. Salwa Jafari.
La campagne anticorruption du président Buhari bat son plein avec ses nouvelles arrestations. L'information a été confirmée par l'agence britannique de lutte contre le crime. L'ancienne ministre du pétrole ainsi que 4 autres personnes ont été arrêtées et puis relâchées sous caution en attendant une enquête plus approfondie à la fois au Royaume-Uni et à l'étranger. Diezani Alison Madueke, 59 ans, a été ministre du pétrole de 2010 à 2015 sous la présidence de Goodluck Jonathan. Elle a été la première femme à endosser ce rôle au Nigeria ainsi que celui de présidente de l'OPEP. Elle a été accusée par le passé de fraude à grande échelle dans la gestion de la richesse pétrolière du pays, mais a nié en bloc ces accusations. En février 2014, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a accusé la compagnie pétrolière nationale nigérienne d'avoir omis de verser 20 milliards de dollars de recettes avant d'être démis de ses fonctions par Goodluck Jonathan, qui a contesté ces chiffres. Le président Buhari s'est par ailleurs attribué le portefeuille clé du pétrole au sein du gouvernement actuel, dont il a soumis la composition mercredi au Parlement, 4 mois après sa prise de fonction.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Drame de l'immigration vers l'Europe, quelques 85 corps ont été découverts sur les plages libyennes au cours des 5 derniers jours. Les gardes-côtes disent toutefois avoir secouru 212 migrants ce lundi. Les grands zodiacs sur lesquels ils avaient embarqué transportaient de nombreux Sénégalais et Soudanais, d'après les autorités citées par l'AFP.
Et concernant la Libye toujours, le consulat de Turquie à Misrata a repris ce lundi ses activités après une semaine de fermeture provoquée par une attaque. C'est ce qu'a appris l'AFP. Auprès de cette représentation.
Tension entre l'OTAN et Moscou autour des frappes aériennes de l'aviation russe en Syrie. Des voix s'élèvent pour dénoncer la duplicité de la Russie qui vise plutôt les positions des rebelles modérés, hostiles au régime de Bachar al-Assad et alliés à l'OTAN. Eddy Issango.
41 groupes rebelles syriens opposés au régime de Bachar al-Assad affirment dans un communiqué que la brutale occupation russe a coupé la route à une solution politique. Parmi eux, Jaïs al-Islam, le plus grand groupe rebelle dans la région de Damas, et Ahrar al-Sham, présent surtout dans le nord-ouest de la Syrie. Pour eux, l'intervention militaire de la Russie rend impossible une solution politique. Des voix s'élèvent aussi à l'OTAN. Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a appelé Moscou à affronter la menace posée par les groupes État islamique plutôt que de continuer ses frappes aériennes unilatérales contre l'opposition à Assad. Il estime que le fait d'avoir ciblé les rebelles n'est pas un accident. Cela confirme notre profonde inquiétude au sujet de ce qu'ils font. Cela pose des questions sur leurs intentions et soulève certainement des interrogations sur leur comportement et leur professionnalisme dans les ciels, souligne Ashton Carter.
une zone de sécurité le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. C'est ce que souhaite Ankara, en tout cas. Malgré la réticence de l'Union européenne, le président du Conseil de l'Europe, Donald Tusk, a déclaré aujourd'hui que l'organisation est prête à discuter de tous les sujets avec la Turquie. Il s'est d'ailleurs entretenu à Bruxelles avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Celui-ci propose en outre de former et d'équiper les forces modérées opposées à Bachar al-Assad et d'établir une zone d'exclusion aérienne.
Les États-Unis, le Japon et 10 autres pays de la zone pacifique sont parvenus ce lundi à un méga accord de libre-échange qui va réduire les tarifs et réglementer le commerce pour 40% de l'économie mondiale. Et les autorités américaines ont annoncé n'être plus à la recherche d'un bateau disparu la semaine dernière au large des Bahamas lors du passage de l'ouragan Joaquin. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibault.
La Fondation Mo Ibrahim a publié son indice 2015 de la gouvernance en Afrique. Au total, 21 des 54 pays africains ont vu leur gouvernance se détériorer depuis 2011, dont 5 des 10 pays en tête du classement. L'île Maurice reste en tête, suivie du Cap-Vert et du Botswana. Mais depuis 4 ans, ces 3 pays ont enregistré un déclin de leur niveau global de gouvernance. La Somalie arrive dernière, derrière la Centrafrique et le Soudan du Sud. Seuls 6 pays ont enregistré une amélioration globale, parmi eux la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Rwanda et le Sénégal. Plus de 30 000 mineurs sud-africains travaillant pour les sociétés Exxaro et Glencore se sont mis en grève illimitée dimanche après l'échec des négociations sur les salaires dans l'industrie du charbon. Géant du négoce des matières premières basé en Suisse, Glencore a supprimé plusieurs centaines d'emplois depuis le début de l'année pour tenter de réduire ses coûts. Selon la Chambre professionnelle des mines, l'industrie sud-africaine du charbon emploie au total plus de 90 000 personnes. L'opérateur satellitaire européen Eutelsat et le réseau social Facebook ont annoncé aujourd'hui dans un communiqué commun le lancement d'un projet d'accès à Internet en haut débit via le satellite pour l'Afrique subsaharienne. Le satellite offre la possibilité de proposer plusieurs faisceaux, ce qui permet d'augmenter la zone de couverture avec une meilleure qualité de connexion.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Claire.
Plein feu sur les stades, c'est la page sport présentée ce soir par Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Gabi.
On commence avec le football en Afrique.
Ah oui, le tout-puissant Mazembe rejoint l'UCM Alger en finale de la Ligue des champions africaine. Le club congolais a démontré sa suprématie face au Soudanais d'Almeriek. 3-0, c'était hier à Lubumbashi. Le 30 octobre, le TP Mazembe devra chercher son 5e titre pour devenir le 2e club le plus titré en Ligue des champions.
Et dans la Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération,
les Sud-Africains d'Orlando Pirates ont arraché leur ticket pour jouer la finale contre l'Étoile du Sahel. Les deux finalistes ont éliminé respectivement les Égyptiens d'Al Ahly et le Zamalek.
À Londres, José Mourinho reste confiant malgré ses plus mauvais résultats.
Oui, c'est vraiment du Mourinho. Si Chelsea veut me virer, qu'il me vire, a lâché le technicien portugais de Chelsea. Mais moi, je ne partirai pas, je veux continuer, a-t-il ajouté. Immédiatement, il a reçu le soutien de son club Gabi, qui a affirmé avoir la bonne personne pour retourner la situation wait and see.
Le Benfica de Lisbonne et l'Atlético Madrid dans le viseur de l'UEFA.
Une ouverture d'une procédure disciplinaire vise ces deux clubs européens. Benfica est mise en cause pour troubles publics, usage de fumigènes et jets d'objets. L'Atlético, pour sa part, est soupçonné d'avoir bloqué l'accès à certains escaliers. L'incident a eu lieu mercredi dernier en Ligue des Champions au stade Vicente Calderón.
Eric, on peut dire que le scandale à la FIFA déferle encore la chronique.
Effectivement, mais ce sont maintenant les sponsors qui donnent de la voix. Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a appelé lundi à des réformes rapides et transparentes de la Fédération internationale de football. Mais sans faire de commentaires directs sur les scandales touchant l'instance mondiale et son président, Joseph Blatter.
Voilà pour les sports. Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Gabi Dorcil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale ce soir, Morgane, le Burundi.
Au moins 8 morts dans plusieurs quartiers de Bujumbura ce week-end au cours d'affrontements entre la police et des hommes armés de grenades. Le porte-parole des forces de l'ordre, Pierre Nkurikiye, affirme que les policiers n'étaient pas présents sur les lieux où 6 cadavres ont été trouvés dans la nuit de samedi à dimanche. Nathalie Binge a joint M. Nkurikiye annonçant de nouveaux tirs de grenades ce lundi.
Dans l'avant-midi, on a des gens qui étaient à bord des motos. On a essayé de lancer quelques grenades dans 3 endroits. Et les grenades qui n'ont pas fait de dégâts. La police a vite réagi et jusqu'à maintenant, elle est en train de rechercher ces criminels.
Et quant aux violences de ce week-end, que s'est-il passé exactement ?
Samedi vers 10h, la police a effectué plusieurs tâches dans certaines localités de la capitale où elle a saisi plusieurs armes, munitions et feux militaires. Quand elle faisait les mêmes tâches à zone de Moussaga, à l'endroit communément appelé Motakura, au niveau de la 13e avenue numéro 13, et la police a été alertée par des citoyens de la localité comme quoi 3 personnes venaient d'être enlevées par un groupe de criminels et elles étaient conduites dans une maison. Et quand la police est intervenue et s'est vue attaquer à la grenade, l'un des criminels a voulu s'exploser en tenant 2 grenades dégoutillées entre ses mains. Une de ces grenades a explosé et lui a coûté la vie. Et un autre criminel est péri lors de l'échange des coups de feu avec cette police. Donc le bilan pour la journée de samedi, c'était 2 policiers blessés par ces grenades et ces 2 criminels tués. Pour la journée de samedi, ces gens-là avaient lancé plus de 20 grenades à l'endroit des policiers. Et pour la nuit qui a suivi, alors, il y a eu autour de 15 grenades lancées. Mais dans une autre zone, à Kamenge également, il y a eu 2 grenades qui ont blessé 8 personnes. Et dimanche matin, la police a été informée également de la présence dans la même zone de Moussaga de 6 cadavres. Les citoyens ont indiqué à la police qu'ils avaient entendu des tirs à cet endroit pendant la nuit vers 3 heures. Dans cette localité, on a découvert les cadavres. Il n'y avait pas de présence policière ou militaire.
Nous avons eu cependant des témoignages ce week-end disant que des quartiers avaient été bouclés et que seule la police était présente dans ces quartiers.
En tout cas, à 3 heures du matin, là où ces tirs ont été entendus, la police n'était pas dans cette localité, ni la police, ni l'armée.
Combien de personnes ont été arrêtées depuis ce week-end ?
Je ne saurais pas vous donner le nombre exact. Dimanche, certains avaient déjà été relaxés.
Qu'est-ce qu'on leur reprochait lorsqu'on les arrêtait ?
Lorsqu'il y a une grenade qui est lancée, par exemple, à partir d'une maison dans laquelle se trouvent plusieurs personnes, dans un premier temps, on peut arrêter plusieurs personnes en masse. Mais après identification, on peut relaxer certaines pour ne garder que ceux-là qui pourraient être ceux qui ont lancé cette grenade.
Pierre Nkurikiye, porte-parole de l'armée burundaise, joint à Bujumbura.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en Guinée.
Amérique.
Les violences troublent la sérénité des prochaines élections et semblent réduire l'espoir d'un scrutin crédible et transparent. Des affrontements à Nzérékoré dans le sud-est entre des militants du RPG au pouvoir et des partisans de la principale formation de l'opposition, l'UFDG, ont fait au moins un mort et plus d'une vingtaine de blessés. Il y a des sources qui parlent de 80 blessés. Toutefois, la CENI se dit prête techniquement à conduire les opérations de vote le 11 octobre. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris un observateur avisé de la politique guinéenne, Daniel Fra.
Matériellement, la CENI, après beaucoup de doutes, maîtrisait à peu près le processus des opérations de vote, celui de remonter des résultats. Donc techniquement, on semblait avoir quand même atteint un seuil acceptable, impossible de poursuivre et de finaliser le déploiement du matériel, des personnels de la CENI et puis des observateurs, bien évidemment. Mais à Nzérékoré, suite au aux violences de ce week-end, de ces derniers jours. Vous savez, les forces de sécurité ont repris le contrôle de la ville et on voit que les autorités locales, préfectorales, minimisent les bilans. Je crois qu'on est à une trentaine de blessés côté autorité, mais on serait au moins mort et puis 80 blessés selon les ONG. Donc il y a visiblement une volonté de maintenir ce scrutin à la date de dimanche, du 11 octobre, mais que cela sera possible uniquement sous le contrôle des forces de sécurité. Et c'est là qu'on peut être un peu circonspect, un peu inquiet sur la situation post-scrutin d'engendrer de nouveaux heurts, de nouvelles violences.
Est-ce que l'on peut espérer un scrutin crédible, transparent, avec cet environnement ?
Ça semble difficile, puisque là, les violences changent évidemment la sérénité et la perception du scrutin par les acteurs, par les électeurs. Je pense qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits par les autorités nationales, par la communauté internationale pour rendre ce scrutin le plus transparent possible. Mais cette question de la violence, en particulier en Guinée forestière, qui est la clé de la question électorale en Guinée, met tout cela en doute.
Comment éviter le scénario des violences qui avaient suivi l'arrivée à la tête de l'État d'Alpha Condé?
Effectivement, en 2010, les violences essentiellement entre les deux tours avaient été très, très importantes. Et on était arrivé à une situation de blocage institutionnel terrible. Et là, on avait eu recours, souvenez-vous-en, à la médiation de la communauté internationale. Je rappelle qu'à l'époque, le président de la CENI avait été désigné et il s'agissait, ça, je crois que c'était une première en Afrique tout au moins, et c'était un non-guinéen, un général malien qui a dû piloter, commander les opérations de la CENI.
Observant ce qui se passe en Guinée, est-ce que vous êtes inquiet?
Oui, bien sûr. Je suis inquiet parce que ce qui se passe aujourd'hui en 2015, que rappeler, c'est passé en 2010.
Expert sur la communication et les médias, observateur de la politique guinéenne, Daniel Fra était joint à Paris.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Burkina Faso, le coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré aura coûté 50 milliards de francs CFA aux finances publiques. Les activités socio-économiques enregistrent également un manque à gagner, en particulier les commerces et le secteur informel. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Ouanogo.
Le coup d'État manqué aura été une mauvaise affaire, tant sur le plan politique qu'économique au Faso. Les finances publiques ont ressenti le contre-coup et plus durement encore, il l'est pour les ménages et le secteur informel. Écoutons Rasmane Zongo, le réparateur de cyclomoteurs.
Depuis ça a commencé là, on ne travaillait pas. Moi, j'ai un mécanicien. Je vends des pièces détachées et puis j'ai fait ma mécanique et puis j'ai nourri mon famille. Mais le problème a commencé, tabassique là. Même si j'ai un coq là, je n'ai pas tué dans ma maison. Donc maintenant, l'État même a dit qu'il a perdu 50 milliards. Moi-même, je ne peux pas avoir 1 million même, mais moi aussi, j'ai perdu beaucoup de choses. Même nourriture, la mère de famille, c'était dur avec moi. Parce qu'on ne travaillait pas. Chaque jour, je travaille, je nourris ma famille. Quand j'ai le problème de la vie, comme ça, je ne peux pas travailler. Coup d'État là. Moi, je suis contre celui qui a fait le coup d'État là. Je veux que notre pays là s'est devenu bonne démocratie correctement.
Les finances publiques ont perdu au moins 50 milliards de francs CFA. Du côté du syndicat des commerçants, son président, El Hadj Inoussa Kabore, estime au double le préjudice subi dans le secteur commerce. On l'écoute.
C'est nous qu'on veut évaluer, il y a des centaines de milliards, puisque le gouvernement s'est basé sur les impôts. Les impôts, c'est le commerçant, c'est le privé qui paie. Donc, ça veut dire nous, on a subi plus que le gouvernement. Imaginez les produits périssables. Il y a au moins 4 remorques qui sont revenus avec les bétails, qui devraient aller à Côte d'Ivoire pour le faire de tabasque. N'ont pas pu franchir. Une remorque estimée 200 moutons, je prends comme ça, ça peut être plus 100 000 par 200, ça fait combien? Toi, tu avais emprunté un crédit à la banque pour faire cette affaire et ce revenu. C'est une perte. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a un commerçant, un débrouillé qu'on a abattu froidement comme ça. Une balle. Vraiment, quand on le pense, ça fait très mal.
Mais tous les ressorts ne sont pas cassés, assure l'économiste Seydou Ezerogou, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique. Le Burkina peut, dit-il, tirer un grand bien du mal qu'a été le coup d'État. Suivant.
Les choses qu'il y a à faire, c'est la consolidation de la question sécuritaire. Traiter les conséquences de la dissolution du RSP. S'il y a des gens qui sont dans la nature, il faut les retrouver. S'il y a des caches d'armes, s'il y a des munitions qui sont en vadrouille, s'il y a des armes qui sont en circulation, il faut vraiment faire le maximum pour ramener le maximum. La deuxième question qui est une grande priorité, c'est celle de la justice. Il y a eu des éléments qui sont de l'ordre de la flagrance délit en ce qui concerne le push. Il faut qu'on aille sans précipitation, mais il faut qu'on aille assez rapidement pour installer le processus, sécuriser le processus.
Joana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Cap maintenant sur le Togo où la dette publique se détériore depuis 3 ans. Pour éviter l'austérité, les spécialistes préconisent à l'État togolais de revoir ses politiques économiques. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Selon le dernier rapport du FMI, le taux d'endettement du Togo représente 62,5% de son produit intérieur brut. La dette est évaluée à plus de 1500 milliards de francs CFA, dont 700 milliards pour la dette extérieure et 800 milliards pour la dette intérieure. Pour l'association Veille économique, ce niveau d'endettement donne à réfléchir. Thomas Koumou, président de Veille économique.
Pour nous, à Veille économique, ce niveau d'endettement, c'est déjà critique parce que le seuil de convergence de la zone Yomoua se situe à 70% du PIB. Nous sommes à 62,5%. Et surtout, nous constatons que cet endettement n'a pas servi à financer des investissements productifs dans le court et le moyen terme. Elle a servi essentiellement à financer des investissements du tertiaire, donc qui sont des investissements qui sont productifs dans le long terme, alors que nous sommes face à des besoins cruciaux, immédiats, auxquels il faut répondre.
Selon cette association, le Togo frôle le surendettement, ce qui inquiète les syndicalistes qui redoutent l'austérité. Professeur David Dosset de la coordination de la synergie des travailleurs du Togo.
Il est clair que l'endettement du Togo n'a pas du tout servi le développement de notre pays. Je pense sincèrement que l'austérité a commencé. Elle est pour le moment masquée, mais si nous continuons sur cette voie, c'est sûr qu'elle sera de plus en plus criarde et le panier de la ménagère n'est pas prêt de se remplir. Pour que les revendications sociales puissent être satisfaites, il faut que le pays dispose de ressources. Mais là, nous nous rendons compte que la marge de manœuvre est de plus en plus réduite, puisque le Togo s'est énormément endetté. Cela peut bien sûr impacter négativement nos revendications.
S'il est clair qu'aucun pays ne peut se développer sans s'endetter, dans le cas du Togo, l'économiste Stéphane Akaya estime qu'une révision de la politique économique s'impose.
Revoir sa politique économique veut tout simplement dire que le Togo doit pouvoir assurer de manière optimale les besoins des populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau de l'argent disponible. Quand on voit rien que le budget de l'État, où la plus grande partie est financée sur le fonctionnement de l'État, on se dit tout simplement que après, si nous devons mener des politiques économiques cohérentes, c'est des politiques économiques qui mettent les populations au centre. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir identifier des politiques économiques qui permettent réellement aux populations de pouvoir bénéficier de cette dette.
Son rapport, la mission a recommandé entre autres l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance, la poursuite des réformes dans la collecte des recettes et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer les investisseurs étrangers. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de ce soir, Edwin Sangano, Morgane Guerriec et Chérubin Dorsil à la présentation.
On remercie Robert Wagner qui était à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr, on est ensemble 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.